Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je salue les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent depuis le Mali, mais également celles et ceux qui nous suivent depuis d'autres pays via le site internet de Maliba FM du lundi au vendredi à 19h. Ce numéro de mon émission Zone de Contact sera entièrement consacré au discours de Vladimir Poutine devant l'Assemblée fédérale, le Parlement bicaméral russe. Cette allocution est devenue un des sujets les plus débattus ces derniers temps. Bien sûr, la déclaration la plus importante concernait les armes nucléaires et nous y reviendrons vers la fin de l'émission. Mais le président russe a également couvert un très large éventail de questions. Vladimir Poutine a expliqué pourquoi il avait été contraint de prendre la décision de lancer l'opération spéciale en Ukraine, a attiré l'attention sur les sanctions anti-russes qui affectent aujourd'hui l'économie du monde entier et n'a pas oublié les vrais amis de la Russie qui sont très nombreux en Afrique. Écoutons Vladimir Poutine.
La Russie, c'est un pays ouvert et surtout, c'est une civilisation autonome. Et surtout, dans cette affirmation, il n'y a aucune prétention d'exclusivité ou de la suprématie. Mais c'est notre civilisation. Et ce qui est essentiel là-dedans, ce sont nos ancêtres qui nous l'ont donnée et nous devons la préserver pour nos futures générations et nous devons la prospérité de notre civilisation. Nous allons développer la coopération avec nos amis, avec tous ceux qui sont prêts à travailler avec nous. Nous allons prendre les meilleures pratiques, mais surtout nous devons compter sur notre propre potentiel, vraiment sur l'énergie positive de la société russe, sur nos propres valeurs et les traditions. Et j'aimerais parler des spécificités et typique de notre peuple, parce que la Russie, c'est un pays qui reflète complètement cette spécificité. Nous pouvons tenir la parole, nous pouvons faire la vraie amitié. Nous n'avons jamais vous laissé tomber, nous allons vous toujours soutenir dans les conditions dures, nous allons toujours aider ceux qui sont trouvés dans un malaise.
Et всегда поддержим в трудные ситуации.
Pour mieux comprendre l'allocution du président russe, c'est François Asselineau, homme politique français, qui va analyser au micro de Spoutnik Afrique ce discours. Bonjour François. Les parlementaires russes ont qualifié de constructifs et d'assez paisibles les propos de Vladimir Poutine. Et comment évalueriez-vous son allocution ?
Alors, je dirais que, en fait, ce discours, il a deux visages. Il a un aspect qui est destiné au peuple russe, au peuple de la Fédération de Russie. Et donc, il y a des éléments dans ce discours qui concernent essentiellement la politique intérieure. J'ai vu que le président Poutine parle du niveau de vie des habitants, parle du logement, de la famille, de l'éducation. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, j'imagine qu'un certain nombre de parlementaires russes ont pu juger que c'était constructif, en ce sens qu'il apportait des informations sur des décisions prises dans tous ces domaines, y compris pour les habitants des républiques de Donbass et de Louhansk. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, de politique intérieure. Puis, il y a un autre aspect dans ce discours qui est un aspect de politique extérieure qui était évidemment très attendu dans le monde entier, c'est-à-dire un peu qu'est-ce qu'il allait dire sur la situation, évidemment, en Ukraine en particulier, de façon plus générale vis-à-vis de l'Occident. Alors là, je ne suis pas sûr que le terme de plus constructif soit le plus approprié. Et moi, ce qui me frappe, c'est plutôt l'affirmation d'une sérénité dans la même perspective que celle qu'il a tracée depuis un an, et donc avec un discours qui est quand même tout à fait offensif vis-à-vis de l'Occident.
Vladimir Poutine a en effet critiqué les politiciens occidentaux. Il a affirmé que leurs actions sont à l'origine de la situation actuelle. Bien évidemment, le président russe faisait allusion à l'opération spéciale en Ukraine, mais aussi aux sanctions contre la Russie, dont les effets se font ressentir sur toute la planète.
Aujourd'hui, dans mon discours annuel, j'interviens dans une période qui est une période seuil pour nous, une période de changement majeur dans le monde entier. Ce sont des événements historiques qui définissent l'avenir de notre pays et de notre peuple quand chacun d'entre nous a en face de lui une responsabilité colossale. Il y a un an, pour la défense des populations, des terres historiques et la garantie de sécurité de notre pays face aux menaces qui se présentaient en Ukraine après le coup d'État en 2014, nous avons décidé de lancer cette opération militaire spéciale. Pas à pas, de façon logique et cohérente, nous allons parvenir aux objectifs que nous nous sommes fixés. Depuis 2014, le Donbass se bat pour défendre son droit de vivre sur ses terres, de parler dans sa langue natale. Il s'est battu, il ne baisse pas les bras, il continue à lutter malgré les bombardements presque quotidiens du régime de Kiev. Il croyait et croit que la Russie vient et viendrait à son aide. Entre-temps, et vous le savez très bien, nous avons fait tout notre possible, et effectivement tout notre possible, pour résoudre ce problème par voie pacifique. Nous avons patiemment mené des négociations pour résoudre ce conflit lourd. Mais face à nous, nous avons un scénario qui est complètement différent. Les assurances données par les dirigeants occidentaux sur le statut du Donbass se sont transformé finalement en un mensonge éhonté. Ils n'ont fait que gagner du temps. Ils ont fermé les yeux sur les meurtres politiques, sur les répressions du gouvernement de Kiev, sur les brimades contre les croyants. Et ils ont encouragé les néo-nazis de Kiev à mener des actes terroristes dans le Donbass, dans les écoles et les instituts militaires européens. On a formé des officiers ukrainiens, on a fourni des armes. Et déjà, avant le début de l'opération, nous avons appelé à mener des discussions sur tous ces armements. Mais en tout cas, le régime de Kiev, ce qu'il voulait, lui, c'était obtenir l'arme nucléaire. Il l'a dit ouvertement. Les États-Unis, l'OTAN ont accéléré l'implantation de bases de laboratoires biologiques, préparant ici un futur théâtre d'opération et en asservissant l'Ukraine et la préparant à une grande guerre. Et aujourd'hui, ils le reconnaissent ouvertement, publiquement, ils le disent, sans gêne. Ils sont carrément fiers d'avoir sapé le format Normandie de discussion pour le transformer en bluff, alors que le sang coulait dans le Donbass et que la Russie voulait sincèrement, j'insiste là-dessus, sincèrement, une solution pacifique. Et en fait, ils ont dit qu'ils jouaient avec des cartes truquées. Donc ces méthodes répréhensibles ont été souvent utilisées dans le passé. C'est de la même façon qu'ils s'étaient comportés en Irak, en Yougoslavie, en Syrie. Mais ils ne se laveront jamais de cette honte. Cette notion d'honneur, d'honnêteté ne leur revient pas. Cette politique d'hégémonie, de colonialisme fait qu'ils se considèrent comme tout permis. Et on comprend que pour les appartements, les habitants des États-Unis sont aussi finalement victimes de ces tromperies et de ces fables sur la recherche de la paix, notamment dans le mépris des résolutions de l'ONU sur le Donbass. Et ce mensonge éhonté se poursuit, mais nous défendons nos intérêts et notre position sur le fait que dans le monde actuel, il ne doit pas y avoir une séparation entre les pays dits civilisés et les autres. Il est nécessaire d'établir un partenariat honnête pour exclure toute démarche agressive. Nous sommes ouverts, nous sommes sincèrement prêts à une discussion ouverte, constructive avec les pays occidentaux pour que l'Europe et l'ensemble du monde bénéficient d'un système de sécurité équitable. Et nous en avons parlé pendant des années, nous avons proposé de travailler sur la mise en œuvre de ce projet, mais il y a eu des réactions hypocrites à tout cela. Je parle des paroles, mais je parle aussi des actes. C'est l'extension de l'OTAN à nos frontières, l'établissement de nouvelles bases de défense antimissile avec le fameux parapluie antimissile, et c'est le déploiement de contingents militaires, pas seulement aux frontières de la Fédération de Russie. J'insiste, vous le savez, mais aucun pays au monde n'a autant de bases militaires dans le monde que les États-Unis. Ce sont des centaines, j'insiste, des centaines de bases. Toute la planète est parsemée de bases militaires. Tout le monde a été témoin de la façon dont les États-Unis se sont retirés de différents accords sur la limitation des armements de façon unilatérale, sapant le principe de l'équilibre, de la paix sur la planète. Mais pourquoi l'ont-ils fait? On sait très bien qu'ils ne font jamais les choses de façon innocente. Nous avions, en décembre 2021, nous avons envoyé aux États-Unis, à l'OTAN, un projet d'accord sur la sécurité, et il y avait une position essentielle pour nous. C'est que nous avons reçu une réponse, un refus direct. Et donc, à ce moment-là, ils avaient les mains déliées pour augmenter les menaces augmentaient chaque jour. Nous avions très bien qu'en février 2022, on savait qu'il allait y avoir une nouvelle opération sanglante contre le Donbass. Et déjà en 2014, Kiev avait jeter son artillerie, ses blindés, son aviation contre le Donbass. On se souvient très très bien des frappes aériennes sur Donetsk. Et ce n'était pas seulement contre Donetsk, mais surtout d'autres villes aussi. Et en 2015, ils ont lancé des attaques directes sur le Donbass, sur Donetsk. Et c'était des frappes qui visaient les civils. Et cela va directement à l'encontre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ça va directement à l'encontre, en totalité, avec ce qui avait été décidé. Je tiens à le répéter, c'est eux qui ont déclenché cette guerre. Et nous, nous avons usé de la force pour l'arrêter. Ceux qui projetaient une nouvelle offensive sur Donetsk, Lugansk et tout le Donbass devaient savait très bien que la suite était c'était des frappes sur Sébastopol et la Crimée. Nous le savions, nous connaissions leurs intentions, et Kiev le dit ouvertement. Ils ont dévoilé leurs cartes, ils ont dévoilé ce que nous savions très bien. Nous défendons la vie des gens, nous défendons nos terres. Et plus de 150 milliards de dollars ont été dépensés déjà pour soutenir le régime de Kiev. Et selon l'OSCE, les pays du G7 ont déjà déployé plus de 60 milliards de dollars au premier semestre de l'année dernière, 150 pour le développement et 150 milliards de dollars pour le matériel militaire et 60 pour le développement économique. Donc on voit très bien à quoi est attribué cet argent. Et toutes les discussions sur la lutte contre la pauvreté, pour la préservation de l'environnement, où est passé tout cet argent? Et ensuite, ces flux d'argent pour la guerre ne cessent d'augmenter. Et ensuite, encore, il y a des coups d'État dans d'autres pays dans le monde. Récemment, il y a eu la conférence de Munich. Il y a eu des accusations incessantes contre la Russie. Et tout cela, on a l'impression que ça a été fait pour oublier ce qu'a fait l'Occident ces dernières décennies. C'est eux qui ont laissé sortir le gin de la bouteille. Et en résultat des guerres, ce n'est pas nous qui avons créé ces chiffres, ce sont les Américains qui les donnent. En résultat des guerres causées par les États-Unis depuis 2001, c'est plus de 30 millions de réfugiés, ce sont plus de 90 000 morts. Et si on efface aujourd'hui cela, fait que les États-Unis font comme si rien ne s'était produit. Mais personne n'a oublié tout cela. Nous n'oublierons pas. Les victimes sont innombrables. Ce sont des milliers de milliards de dollars qui ont été dépensés. Et sous les slogans de démocratie, on établit on impose des valeurs néolibérales en humiliant ouvertement les dirigeants de pays étrangers. On crée des images de l'ennemi pour détourner l'attention de la population des schémas de corruption qui sont opérants dans différents pays. On crée artificiellement des problèmes sociaux, économiques. Je vous rappelle que déjà au siècle dernier, ce sont les Américains qui ont ouvert la voie à l'accession au pouvoir d'Hitler, et ils ont fait la même chose maintenant en Ukraine. Et ceux qui étudient l'histoire savent très bien que ce projet trouve ses sources déjà au 19e siècle. À l'époque, on a vu ce qui s'était passé dans l'Empire austro-hongrois, en Pologne. C'était arracher les territoires historiques qui aujourd'hui s'appellent l'Ukraine de notre pays. C'est ça l'objectif. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ici. Tout se répète. L'Occident force la mise en œuvre de ce projet en ayant soutenu le coup d'État de 2014. Et ce coup d'État était inconstitutionnel. On a même ouvertement publié les montants qui ont été accordés à cela. La base idéologique de tout cela était une russophobie agressive, un nationalisme agressif. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, ils n'ont aucune honte à appeler Edelweiss ce genre d'opération, alors que c'était sous ce titre que Hitler avait lancé des opérations contre les Juifs dans tous les pays occupés d'Europe. Et aujourd'hui, en Ukraine, on voit les chevrons des divisions d'Asreich, de la SS et d'autres unités dont les acteurs ont eu les mains pleines de sang. Et aujourd'hui, ils sont glorifiés en Ukraine. Et ces néo-nazis ne craignent pas de rappeler de qui ils tiennent cet héritage. Et je vous rappelle que aucun dirigeant occidental ne remarque cela. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, mais parce qu'ils en ont rien à faire. Voilà. Ils ont misé sur la lutte contre nous, la lutte contre la Russie. L'essentiel pour eux, c'est de lutter contre nous, contre nos pays. Et donc, tous les moyens sont bons, que ce soit le terrorisme, le nationalisme, d'autres. L'essentiel, c'est d'utiliser toutes les armes contre la Russie. Et donc, ce projet d'anti-Russie, cette politique revancharde, est dirigé contre nous. On crée des foyers de conflits juste à nos frontières. Et déjà, dans les années 1930, et maintenant, on a exactement la même rhétorique. Créer des agressions dans l'Est de l'Europe en utilisant les mains d'autres acteurs.
Чужими руками устранить конкурентов.
Monsieur Asselineau, comme nous venons de l'entendre, Vladimir Poutine vient de dire que l'Occident cherche à déclencher en Europe une guerre par procuration, à éliminer ses concurrents comme c'était déjà le cas plusieurs fois par le passé. Pourquoi l'Europe ne veut pas tirer les leçons du passé, selon vous ?
Comme je le disais tout à l'heure, d'agréger des États, de rallier des États à sa zone d'influence, à son empire, si l'on peut dire. Donc il y a effectivement les deux narratifs. Alors, quand vous dites que l'Europe ne tire pas les conséquences, je voudrais quand même signaler, que, notamment à vos auditeurs, qu'il faut bien faire la différence entre les dirigeants européens et la population. Moi, ce qui me frappe, ce que je vois, c'est qu'en France, mais c'est pas seulement vrai en France, c'est vrai même aux États-Unis, il y a quand même dans la population de plus en plus de gens qui ne veulent plus de cette guerre, qui voient que c'est une guerre qui est dangereuse, qui nous entraîne dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Les Français n'ont aucun intérêt. Je l'ai souvent dit, en France, une partie significative de la population qui est très pro-russe, très russophile, des gens qui n'ont pas oublié ce que les Russes ont fait pour la France, notamment pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas comprendre des événements si on ne leur émet pas en perspective historique. Moi, j'ai tendance toujours à comparer ce qui se passe en ce moment à l'affaire de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on parle de Troisième Guerre mondiale. Revenons à la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que c'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre à Adolf Hitler le 3 septembre 1939. Et donc, il y avait les collaborationnistes de hitlériens en France, après la défaite française, et qui ont reproché beaucoup aux dirigeants de la Troisième République d'avoir déclaré la guerre à Adolf Hitler en disant que c'était à cause d'eux qu'il y a eu la guerre et que Adolf Hitler était quelqu'un de très pacifique, qui ne menaçait pas la France. Ça, c'était le discours des collabos. En réalité, évidemment, si l'Angleterre et la France avaient déclaré la guerre à Hitler, c'est parce qu'il y avait eu auparavant les 6 ans qui s'étaient écoulés entre janvier 1933 et septembre 1939. 6 ans au cours desquels Adolf Hitler avait reconstitué une armée extrêmement performante, avait, au mépris des traités d'après la Première Guerre mondiale, réarmé la rive gauche du Rhin, avait ensuite pratiqué l'Anschluss en assimilant l'Autriche au Reich, puis l'affaire des Sudètes avec la conférence de Munich en 1938, et là il se mettait maintenant à attaquer la Pologne. Donc la France et l'Angleterre effectivement avait pris l'initiative de déclarer la guerre à l'Allemagne, mais parce que de façon préventive, parce qu'il savait que ça n'en finirait pas, et que Hitler avait des volontés expansionnistes. Donc moi, ce que je remarque, c'est que en France, où on nous présente Vladimir Poutine comme un nouvel Hitler, moi je trouve que là, objectivement, c'est l'OTAN qui agit comme un nouvel Hitler. C'est l'OTAN qui, après 1991, a grignoté tous les pays de l'Europe de l'Est, puis ensuite s'est rapproché de l'Ukraine, a essayé de déstabiliser la Biélorussie, a pratiqué la révolution du Maïdan, et au-delà, puisque les projets qui circulent, dont j'ai déjà parlé dans certains cercles, notamment il y a eu une réunion à Prague qui s'est tenue en juin de l'année dernière, sur le démantèlement à venir de la Russie. D'ailleurs, Madame Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine, a dit que la Russie était un pays beaucoup trop grand et qu'il fallait la démanteler. Donc, en réalité, vu de Moscou, vu de Russie, c'est l'OTAN qui agit de façon impérialiste en grignotant progressivement tous les États jusqu'à repousser la frontière de l'OTAN directement avec la frontière russe. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de ce qui se passe actuellement en Ukraine.
Très bien, monsieur Asselineau. À ceux qui restent influencés par les médias occidentaux, Vladimir Poutine a rappelé le sort que les dirigeants des pays de l'OTAN ont préparé pour l'Ukraine.
Nous ne luttons pas contre le peuple ukrainien. Je l'ai dit dès le début, je continue à le respecter. Nous voyons très bien que ce peuple est l'otage du régime de Kiev et de ses maîtres occidentaux au sens militaire, économique et politique. Ils ont détruit l'industrie en Ukraine. Ils ont établi la pauvreté. Ils ont augmenté les inégalités dans ce pays. Dans ces conditions, évidemment, on peut trouver beaucoup de preuves là-dessus. Personne n'a pensé au peuple. Et à la fin, le peuple ukrainien a été transformé en consommable. C'est du consommable. Et c'est terrible de le dire, mais c'est un fait. La responsabilité de l'incitation de ce conflit ukrainien revient entièrement aux élites occidentales et en particulier au régime de Kiev, pour lequel finalement le peuple ukrainien est quelque chose d'étranger. Le régime de Kiev est au service d'intérêts tout à fait étrangers à l'Ukraine. Et l'Ukraine est utilisée comme bélier contre la Russie. Donc, ils essaient de modifier le cours des combats dans leur intérêt. Mais il y a une circonstance importante pour eux, qui est importante, c'est que plus les systèmes d'armes qui seront de longue portée seront attribués à l'Ukraine, plus nous devrons pouvoir réagir à ce type de menace.
Les élites de l'Occident ne cachent pas leur cible. C'est de faire le préjudice à la Russie, comme on les appelle, la défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela veut dire en finir avec nous, finalement. Parce qu'ils ont l'intention de faire transformer un conflit local en phase d'opposition globale. c'est la façon dont nous le comprenons et de la façon respective, nous allons y réagir. Parce que dans ce cas-là, il s'agirait de l'existence de notre pays. En même temps, ils doivent se rendre compte du fait que battre la Russie sur le champ d'opération n'est pas possible. Pour cette raison, ils continuent les attaques de l'information plus agressive et évidemment, ils choisissent les cibles, surtout comme les générations, les jeunes gens. Et là-dessus, ils ne font que du mensonge constamment. Ils déforment, ils détournent les faits historiques et continuent à attaquer notre culture, l'Église orthodoxe russe et d'autres organisations religieuses de notre pays. Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple en détruisant les familles, les ethnies culturelles, en détournant, en déformant des enfants parce qu'en déclarant la pédophilie comme la norme de leur vie. Et en même temps, les prêtres, les gens religieux, ils sont obligés de faire le baptême des mariages entre les gens du même sexe. Évidemment, les adultes ont le droit de vivre comme ils veulent. C'est la façon dont nous avons jamais toujours traité en Russie. On ne fait jamais l'ingérence dans la vie privée. Nous n'avons pas cette intention, mais quand même, nous voudrions leur dire. Regardez ce qui est écrit dans les livres religieux sacrés, parce que dans les religions du monde entier, tout est dit. La famille, c'est l'union entre la femme et l'homme. Et même ces textes sacrés sont mis sous doute. Et comme il est devenu connu, l'Église américaine, pour l'instant, c'est prévu, va envisager l'idée du Dieu neutre au niveau du sexe. En fait, qu'est-ce que je dois rajouter? Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Des millions de gens à l'Occident comprennent qu'ils sont guidés vers une catastrophe spirituelle. Les élites commencent à perdre leur tête et apparemment, ce n'est pas possible de le guérir. Mais comme nous avons déjà dit, c'est leur problème. Mais nous devons protéger nos enfants. Nous allons le faire. Nous allons protéger nos enfants de la dégradation et de la disparition. Il est évident que l'Occident va essayer de fragiliser et défragmenter notre société en misant sur les traîtres parce qu'ils n'ont jamais de méprison par rapport à leur propre patrie. Ils ont toujours l'envie de faire de l'argent sur l'avant de ceux qui sont prêts à le payer parce que ça a toujours été le cas dans toutes les époques. Et ceux qui ont choisi la voie de la trahison commencent à faire des crimes terroristes contre notre société, contre l'intégrité territoriale. Et évidemment, ils vont assumer la responsabilité d'après la loi. Mais nous n'allons jamais suivre la façon d'agir de l'élite de Kiev et de l'Occident en faisant la chasse aux sorcières, surtout ceux qui ont fait un pas détourné par rapport à la patrie. Ça revient à leur conscience. C'est eux qui doivent vivre avec cela. Mais l'essentiel, c'est que les gens, les citoyens russes, leur ont donné l'estimation morale. Et je suis fier, et je pense que nous sommes tous fiers que notre peuple multiethnie, et la majorité de nos citoyens, ils ont pris la position de principe par rapport à l'opération militaire spéciale. Ils ont compris le sens, la logique des actions que nous faisons. Surtout, ils nous ont soutenu nos actions de défense du Donbass. Et c'est vraiment la manifestation du patriotisme. C'est le sentiment qui sont typiques pour notre peuple dans l'histoire. Évidemment, c'est inimaginable parce que chacun, je tiens à souligner, chacun est directement lié, son destin directement lié avec le destin de sa patrie. Chers amis, je tiens à remercier tout le peuple russe pour le courage et la détermination. Je veux dire à nos héros, à nos soldats, à nos officiers de l'armée, de la marine, de la garde nationale, des services spéciaux et services secrets, aux combattants de Donetsk et de Lugansk, surtout aux bénévoles qui continuent à participe aux opérations et j'aimerais demander pardon que dans mon discours, je ne pourrais pas citer tout le monde parce que pendant les préparatifs de ce discours, j'ai préparé une liste très longue de ces régiments, de ces équipes, de ces unités héroïques, mais je les ai retirées. Comme j'ai déjà dit, il n'est pas possible de citer tout le monde ici pendant le discours et je n'ai pas du tout voulu vexer ceux qui ne sauraient pas lister. C'est pour ça que je me penche devant les femmes, devant les parents, devant les familles de nos protecteurs, aux médecins, aux infirmières qui sauvent les vies, ou surtout aux équipes du chemin de fer et aux conducteurs qui approvisionnent le front, aux constructeurs qui font les rénovations, les restaurations des objets de l'infrastructure civile, aux ingénieurs des usines de défense qui fonctionnent pratiquement en permanence en plusieurs équipes, aux travailleurs dans la campagne qui assurent la sécurité agroalimentaire dans notre pays. Et je remercie bien sûr les professeurs qui font soin sincèrement des jeunes générations, des Russes, surtout de ceux qui travaillent dans les conditions adjacentes au front, aux acteurs de la culture qui visitent les zones des opérations, surtout pour soutenir les officiers. Surtout, je tiens à remercier les bénévoles et les civils, aussi bien que les journalistes, et surtout, je parle des correspondants militaires qui, en risquant leur vie sur la ligne de front, essaient de faire propager la vérité. Surtout, les prêtres militaires qui inspirent par leurs paroles les militaires, surtout les entrepreneurs, tous ceux qui font leur devoir civique et professionnel et humain, tout simplement. Et surtout, des paroles distinctes sont réservées aux citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, et des régions de Zaporogie et de Kherson. Vous tous, vous avez choisi votre futur. Vous avez défini votre futur pendant les référendums. Vous avez fait un choix ferme malgré les menaces des terroristes dans les conditions où il y avait des opérations de combat à côté. Mais il n'y avait rien d'autre que votre détermination d'être avec la Russie, avec votre patrie. Nous avons déjà commencé, nous allons intensifier. Je tiens à souligner que cette réaction de l'audience est réservée à l'attention des citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporogie. Nous les remercions encore tous ensemble. Nous avons déjà commencé, nous allons intensifier le programme de grande échelle de restauration de l'infrastructure civile afin de développer ces régions de la Fédération de Russie. Il faut faire renaître les entreprises et les emplois. Les ports de la mer d'Azov qui est redevenu la mer interne de la Russie pour construire les autoroutes modernes comme nous avons fait en Crimée, qui maintenant a un lien sûr avec le reste de la Russie par la terre. Et par les efforts, comment nous allons mettre en œuvre ces projets, parce que tout le monde assure le soutien direct au peuple des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et des régions de Kherson et de Zaporogie. Ils le font sincèrement comme des vrais frères et sœurs. Maintenant, nous sommes ensemble. Ça veut dire que nous sommes encore plus forts. Nous allons tout faire pour que la paix durable, bien entendu, revienne sur notre terre afin de garantir la sécurité des gens. Et pour tout cela, pour nos ancêtres, pour le futur de nos enfants, pour la restauration de la justice historique, pour la réintégration de notre peuple, ce sont nos combattants qui battent. Ce sont nos héros.
Бойцы наши герои.
De retour sur les ondes de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique et son émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de se brancher sur Maliba FM depuis leur poste de radio au Mali, et enfin ceux qui nous écoutent depuis d'autres pays via le site internet ou à travers l'application de Maliba FM. L'homme politique français François Asselineau est toujours avec nous pour commenter le discours du président russe. On va s'intéresser maintenant au volet économique de cette déclaration de Vladimir Poutine. Le président russe est notamment revenu sur les sanctions occidentales imposées contre la Russie. Écoutons Vladimir Poutine.
L'Occident a lancé une campagne pas seulement militaire et médiatique, mais aussi économique contre nous, mais nulle part, il n'a obtenu de résultat, il n'en aura aucun. De plus, les initiateurs des sanctions se punissent eux-mêmes, puisque dans leur propre pays, il y a des pertes d'emplois, il y a des fermetures d'entreprises, il y a une inflation, et ils disent à leurs citoyens, nous l'entendons, ils disent que ce sont les Russes qui sont les coupables de tout. Ces moyens sont utilisés dans cette politique d'agression sur la base de sanctions. Ils imposent des restrictions à nos entreprises, à nos communications. Ils nous privent d'accès au marché de l'exportation. Et cela constitue tout simplement un pillage de nos réserves. Ils essayent de détruire le rouble en provoquant une inflation destructive. Je le répète encore une fois, les mesures contre la Russie, ce n'est qu'un moyen. Mais l'objectif déclaré par eux-mêmes, c'est une citation, c'est de forcer à souffrir le peuple russe. Voilà, ce sont ces humanistes qui disent ça. Ils veulent forcer le peuple à souffrir pour déstabiliser notre société de l'intérieur. Leur objectif n'a pas été atteint. L'économie russe, son système de gestion, s'est avéré beaucoup plus solide que ne le supposait l'Occident. La Banque de Russie, les entités de la Fédération de Russie, le gouvernement, le Parlement ont permis d'assurer une stabilité de l'entreprise. Ils ont protégé les citoyens, ils ont préservé les emplois, ils ont trouvé le moyen de compenser les pertes sur les marchés. Ils ont soutenu le système financier et ils ont assuré le développement du pays. Et déjà au mois de mars l'année dernière, nous avions lancé un programme de soutien aux entreprises pour un montant total de 1000 milliards de roubles. Ce n'est pas une politique d'émission, je tiens à le préciser. Tout cela repose sur les lois du marché concrètes. Et à l'issue de l'année 2022, le PIB a baissé. Certains m'ont dit, il faudrait que M. le Président vous le disiez. Et donc, j'ai eu l'information hier. Donc, je dis, oui, nous avons respecté les plans. On nous avait annoncé une baisse de 20%, de 25% du PIB. Finalement, nous sommes à 10% de baisse. Et on a une baisse de 2% finalement du PIB. Et je tiens à rappeler qu'en février-mars de l'année dernière, comme je dis, on nous avait promis un effondrement. Les entreprises russes ont réorganisé les chaînes logistiques et elles ont trouvé de nouveaux partenaires fiables. Et c'est la plupart des partenaires qu'on trouve dans le monde. Je tiens à noter que la part du rouble dans les paiements des entreprises a augmenté et constitue aujourd'hui un tiers. Et avec les pays amis, c'est plus de la moitié des échanges. Et nous allons continuer avec nos partenaires à la mise en place d'un système de paiement internationaux qui soit indépendant du dollar et des autres réserves financières des pays occidentaux. Parce que face à une telle politique occidentale, nous sommes obligés de trouver d'autres solutions.
Неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер.
Monsieur Asselineau, rappelez-vous, c'était Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, qui avait déclaré l'an dernier qu'il allait faire effondrer l'économie russe. Mais c'est l'inverse. L'inflation dans la zone euro devrait passer à 5,6%. Dans le même temps, en Russie, on s'attend à un taux d'inflation d'environ 4% pour le deuxième trimestre 2023. D'autres indicateurs économiques ont été cités par Vladimir Poutine. Est-ce que Bruno Le Maire s'est trompé dans ses pronostics ?
Ben, malheureusement, oui, il s'est complètement trompé. Enfin, malheureusement, moi, je ne souhaite pas l'effondrement de l'économie russe. Mais ce que M. Le Maire a réussi avec M. Macron, c'est l'effondrement de l'économie française. Et donc, c'est ça qui est particulièrement malheureux. Alors, pour répondre plus généralement à votre question, oui, les dirigeants français, mais pas seulement eux, mais les dirigeants européens de façon plus générale, se sont lourdement trompés sur la Russie. La Russie est un pays qui est souvent un peu sous-estimé, un peu méprisé par un certain nombre de dirigeants occidentaux qui considèrent, mais c'est historique, hein, ça remonte à très loin, qui considèrent toujours que bon, ils ont pas, c'est pas comme un pays occidental, c'est un pays voilà. Et puis en sous-estimant la Russie, C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Hitler avec l'opération Barbarossa. Ce qui a cassé Hitler, c'est qu'il s'était trompé sur la puissance de l'armée soviétique et aussi sur le patriotisme et la résilience du peuple russe. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est toujours la même erreur, c'est-à-dire de croire que c'est un pays qui est en partie en retard, voilà, etc. Et en fait, les Occidentaux ont complètement sous-estimé la Russie. Or, je ne dis pas que la situation en Russie est merveilleuse, mais enfin, ce que je vois, c'est qu'ils ont un taux de croissance. Vous avez un taux de croissance qui va être supérieur à celui de la zone euro. Vous avez un taux d'inflation qui est inférieur. Vous n'avez pas la catastrophe que nous connaissons en France. Pour tout vous dire, Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, a perdu toute crédibilité. Enfin, lorsque les Français parlent de Bruno Le Maire, tout le monde rigole, quoi. C'est-à-dire, il est considéré comme quelqu'un de totalement incompétent. Non seulement incompétent, mais par ailleurs arrogant dans sa bêtise.
Monsieur Asselineau, le président russe, lui aussi, indique que l'Occident détruit sa propre économie. Mais la Russie ne va pas suivre cet exemple. Et je vous propose d'écouter un nouvel extrait qui traite de ce sujet en détail.
C'est eux qui l'ont créé eux-mêmes de leurs propres mains. Vous savez, il y a cette expression qui dit canons au lieu de l'huile. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est une priorité. Et quand nous respectons nos objectifs stratégiques. Il faut bien avoir conscience que nous ne devons pas détruire notre économie. Nous devons au contraire réunir les conditions favorables au développement de notre pays. Et c'est la logique que nous mettons en pratique et que nous continuerons à employer. Beaucoup de secteurs industriels, de bases civiles, non seulement n'ont pas réduit, mais ont augmenté leur production. Et on a, pour la première fois cette année, on a eu 100 millions de mètres carrés d'augmentation des terres exploitées avec une croissance à deux chiffres. Et donc, merci à tous les producteurs du secteur agroalimentaire et aux agriculteurs. Ils ont apporté une moisson record l'an dernier avec 150 millions de tonnes de céréales et au mois de juin prochain, nous pourrons avoir un volume d'export de 55 à 60 millions de tonnes de céréales. Et c'est un record absolu. Si vous vous souvenez, je pense que certains d'entre vous se souviennent des chiffres que nous avions encore récemment. L'ancien vice-premier ministre et le ministre de la... On avait des moissons de 60 millions de tonnes. Aujourd'hui, 55-60 millions, c'est seulement l'export. Donc ça veut dire que nous avons tous les moyens de nous développer, mais aussi dans les autres secteurs. Nous avons évité un affaissement du marché de l'emploi, mais nous avons même au contraire une baisse du chômage. Aujourd'hui, malgré toutes les difficultés que nous avons autour de nous, le marché du travail est devenu plus agréable qu'il n'était précédemment. Souvenez-vous, avant la pandémie, nous avions 4 et quelques pourcents de chômage. Aujourd'hui, nous sommes à 3,7. Donc 3,7, vous voyez. Donc c'est un minimum historique. Je le répète, l'économie de la Russie a surmonté les risques qui se sont présentés. Beaucoup de ces risques étaient difficiles de calculer à l'avance. Il a fallu parfois réagir, agir à la godille. Mais en tout cas, nous avons réussi à prendre des décisions avec les milieux d'affaires de façon aussi rapide que possible. Et encore une fois, les initiatives privées ont eu un très grand rôle ici, notamment au niveau des PME. Et cela, il ne faut pas l'oublier. Nous avons évité de grands problèmes dus aux procédures administratives. Ce qui est important aussi, c'est que la récession n'a été observée que pendant le deuxième trimestre de l'année dernière. Dès le troisième trimestre, nous avions au contraire une croissance. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un nouveau cycle de croissance économique et d'après les socialistes, sa structure, son modèle revêt un caractère tout à fait nouveau. Donc, il y a de nouveaux accès aux marchés mondiaux. nous avons notre propre marché intérieur qui a évolué et il y a aussi la mise en place de nouveaux cadres. Et cela nous permet de mettre en valeur de nouveaux potentiels de la Russie dans des secteurs tout à fait différents. Et nous avons aujourd'hui une croissance confirmée pour beaucoup de nos secteurs et les entreprises peuvent aujourd'hui en bénéficier en proposant sur différentes niches, sur les marchés internationaux, des produits qui se substituent aux produits de fabrication occidentale. On a donc un tableau général ici et on comprend que nous avons des problèmes structurels, notamment en logistique, en finance, en technologique, en personnel, mais cela nous permet de voir la nécessité dont nous parlions depuis longtemps de procéder à des transformations. Et aujourd'hui, ces transformations, c'est une nécessité vitale et cela change considérablement la situation et ça la change de façon positive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un développement durable ici pour la Russie, c'est-à-dire un développement qui soit souverain sans insensible aux pressions extérieures qui peuvent se manifester avec des garanties de sécurité, de protection des intérêts de la patrie. Je le souligne, le sens de notre travail n'est pas de s'adapter à la situation, mais notre objectif stratégique est de placer notre économie à de nouveaux horizons, parce que tout évolue aujourd'hui et tout cela évolue de façon extrêmement rapide. Donc ce n'est pas seulement une question de défi, c'est une question d'opportunité. Et c'est aujourd'hui le cas, et je l'ai dit, et la façon dont nous mettons cela en œuvre aujourd'hui, c'est ce qui est important.
Passons maintenant à la partie du discours de Vladimir Poutine qui a créé une véritable surprise en Occident. Le président russe a évoqué les mesures que Moscou a été contrainte de prendre dans le domaine des armes nucléaires en raison de la politique irresponsable et tout simplement criminelle de l'OTAN.
Chers collègues, je m'arrêterai aussi sur un autre thème. Au début de février, il y a une déclaration de l'OTAN exigeant que la Russie de revenir à l'exécution de l'accord sur les armes offensives, en autorisant des inspections sur nos sites militaires. Je ne sais même pas comment qualifier cela, si ce n'est de théâtre de l'absurde. Nous savons très bien que l'Occident est directement impliqué dans les tentatives de Kiev de frapper l'aviation stratégique russe. C'est-à-dire que les vieux drones soviétiques ont été rééquipés avec des technologies occidentales et maintenant, ils veulent vérifier encore nos sites militaires. Dans les conditions actuelles, aujourd'hui, dans la confrontation d'aujourd'hui, ça semble être du délire total. En même temps, ils veulent aussi faire des inspections. Ils veulent nous bloquer, nous, dans les inspections que nous voulons faire sur certains sites. Nos demandes ne reçoivent pas de réponse. Et finalement, on ne peut rien vérifier, nous. Encore une fois, les États-Unis, l'OTAN disent directement que leur objectif est d'effectuer des frappes stratégiques sur la Russie pour l'abattre. Et après, ils ont, comme si de rien n'était, ils veulent aller se promener sur nos sites militaires, y compris les sites de pointe. Il y a une semaine, par exemple, j'ai signé un décret sur l'alerte des troupes stratégiques. Est-ce qu'ils veulent venir comme ça, ici? Ils croient qu'on va les laisser entrer? Avec leur déclaration collective, l'OTAN a fait ouvertement une demande pour participer à cet accord sur les armes offensive, mais nous sommes d'accord, si vous voulez. De plus, nous considérons que ça fait longtemps qu'il fallait exagérer ça. L'OTAN, ce n'est pas seulement l'arsenal nucléaire des États-Unis, il y a aussi celui de l'Angleterre, il y a celui de la France, ils se développent et ils sont également orientés contre nous, contre la Russie. Les dernières déclarations de leurs dirigeants ne font que le confirmer. Écoutez-les, on ne peut pas ignorer cela, on n'en a pas le droit, surtout aujourd'hui. De même que le premier accord sur Le traité sur les armes offensives a été conclu par les États-Unis et l'URSS en 1991. La situation était différente. Il y avait une baisse des tensions, il y avait un renforcement de la confiance mutuelle. Mais ensuite, nos relations ont évolué de telle façon que la Russie et les États-Unis ne se considéraient plus comme des adversaires. Or, l'accord actuel de 2010 comprend des dispositions très importantes sur le caractère indivisible de la sécurité, et ce sont des questions qui sont directement liées entre les armements de défense et les armes stratégiques. Et ça a été oublié depuis longtemps par les États-Unis. Ils se sont retirés de cet accord de ce traité. Donc, tout maintenant est du passé. Donc, nos relations se sont dégradées. Et ça, c'est le mérite des États-Unis. Ce sont eux précisément, qui, après l'effondrement de l'URSS, ont commencé à procéder à une révision des résultats de la Deuxième Guerre mondiale et à la construction de l'architecture mondiale, avec un seul maître, en l'occurrence les États-Unis. Et pour cela, ils ont commencé à détruire toutes les bases de l'équilibre de paix qui avait été établi après la Deuxième Guerre mondiale, après Potsdam. Et pas à pas, ils ont commencé à revoir toutes les étapes qui avaient été mises en place et qui permettaient de contrôler, de procéder à un contrôle des armements. Ils ont déclenché toute une série de guerres partout dans le monde, dans un seul objectif, casser l'équilibre qui avait été l'architecture des relations internationales qui a été mise en place après la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas une tournure de langage, c'est la chose qui s'est passée réellement à l'effondrement de l'URSS. Ils ont voulu renforcer leur domination mondiale sans prendre en compte les intérêts de la Russie, mais aussi d'autres pays. Et après l'année, depuis 1945, le monde a évolué, de nouveaux centres de développement se sont mis en place, de nouveaux centres d'influence. C'est un processus naturel qu'on ne peut pas ignorer. Mais ce qui était inadmissible, c'est que les États-Unis ont commencé à aménager le monde seulement de façon à ce que ça convienne leurs intérêts égoïstes.
Et maintenant, plusieurs représentants otaniens donnent des signaux. En fait, ils présentent l'ultimatum en disant que vous, la Russie, vous devez respecter tout ce qui était négocié, y compris le traité sur les armes offensives stratégiques, sans condition, et nous allons nous comporter comme nous voulons. Comme quoi, il n'y a pas de lien entre les problèmes, le traité START et le conflit en Ukraine et d'autres actions hostiles de l'Occident envers notre pays, comme il n'y a pas d'affirmation de grande échelle et qui veulent porter une défaite stratégique contre nous. En fait, c'est vraiment de l'hypocrisie ou la bêtise complète, parce qu'on ne peut pas les appeler idiots, parce que ce ne sont pas des gens bêtes, parce qu'en même temps, ils veulent nous assurer la défaite stratégique, en même temps, ils veulent visiter nos objets de l'infrastructure nucléaire. Pour cette, dans ce contexte, aujourd'hui, la Russie suspend la participation au traité des armes stratégiques offensives. Je répète, la Russie ne se retire pas du traité, juste suspend sa participation au traité. Mais avant de revenir à la discussion de cette question, nous devons comprendre pour nous-mêmes qu'est-ce que les pays comme, par exemple, la Grande-Bretagne et la France aimeraient avoir au sein de l'Alliance et comment nous allons prendre en considération leurs réserves stratégiques, ça veut dire le potentiel uni de l'Alliance et de l'Atlantique du Nord, parce que par leur déclaration, ils se sont déclarés comme participants à ce processus. Nous ne sommes pas contre du tout. Et surtout, il ne faut pas essayer à nouveau de faire le mensonge à tous en se protégeant de la paix à protéger, parce que nous connaissons le sous-sol, parce que nous savons très bien que les délais de garantie pour l'utilisation de certains composants et munitions nucléaires aux États-Unis commencent à toucher à la fin. Et dans ce contexte, certains acteurs à Washington commencent à réfléchir sur la possibilité des essais naturels de leurs armes, y compris compte tenu du fait qu'aux US, ils développent de nouvelles 000 munitions nucléaires, parce que nous avons cette information. Et dans ce contexte, le ministère russe de la Défense et la coopération Rosatom doivent assurer la disponibilité des armes russes. Évidemment, nous ne serons pas les premiers à le faire, mais si les États-Unis font ces essais, nous allons les faire aussi, parce que personne ne doit avoir d'illusion dangereuse que la parité stratégique nucléaire peut être détruite.
Monsieur Asselineau, revenons sur le sujet du traité New Start. Vladimir Poutine a notamment dénoncé le rôle des États-Unis dans cette démarche. Qu'est-ce qui a, d'après vous, amené la Russie à cette décision ?
C'est une décision qui, effectivement, peut paraître assez spectaculaire, mais qui, à mon avis, pour les spécialistes, n'est pas si spectaculaire que ça, parce que ça ne fait finalement que officialiser un état de fait. L'état de fait, c'est que il n'y a plus de confiance entre Washington et Moscou. Voilà, les deux partenaires ne se font plus du tout confiance. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vous rappelle que cette affaire n'est pas tombée du ciel. Il faut remonter à 2018 lorsque le président Trump a commencé à dénoncer le traité qui est le TFNI, comme on dit en français, ou INF, sur les armes intermédiaires, les missiles intermédiaires, autour de 500 km de portée. Le traité là dont on parle, dont a parlé le président Poutine aujourd'hui même, c'est un autre traité qui est le traité New Start, qui reprend en fait des traités de réduction des armements stratégiques. Donc il s'agit de stratégiques. Mais ce que je disais, c'est que dès 2018, le président Trump a remis en question le traité sur les armes intermédiaires, a dénoncé, donc il y a eu 6 mois avant la sortie de ce traité. L'argument des États-Unis, c'est que la Russie ne respectait pas les clauses de ce traité. La Russie disant que ce n'était pas vrai, qu'elle respectait les clauses de ce traité. Les spécialistes savent que une inquiétude des États-Unis, c'était que la Chine développe pas mal de missiles à portée intermédiaire, et donc que les États-Unis, les traités de limitation des armements avec la Russie ont été conclus à une époque où la Chine avait une puissance militaire très faible. Maintenant, les Américains se rendent compte que ce traité avec la Russie les empêche de développer des armes tactiques, des armes intermédiaires, dont ils pourraient avoir besoin vis-à-vis de l'autre grand ennemi des États-Unis, qui est la Chine. Et donc, certains disent que si les États-Unis ont remis en cause le traité des armes intermédiaires, c'était moins en fait contre la Russie de l'époque que pour développer de nouveaux missiles vis-à-vis de la Chine. En attendant, cette affaire a été quand même déplorable, puisqu'elle a introduit un germe de très grande suspicion entre les deux. Alors là, ce dont on parle maintenant, c'est de traiter sur les armements stratégiques qui limitent, alors je crois, aux alentours de, je crois que c'est quelque chose comme 1500 missiles de part et d'autre, etc. Et donc, la Russie a décidé de dénoncer le traité, mais de ne pas l'appliquer, de se retirer provisoirement. Je pense que c'est un peu des prises de position montrant de la part du président Poutine la détermination de la Russie à ne se laisser battre. C'est aussi certainement une réaction aux décisions annoncées par le président Biden lorsqu'il s'est rendu en Ukraine hier et aujourd'hui en Pologne, où le président Biden annonce qu'il a donné son accord, si j'ai bien compris, à donner des avions de chasse et des missiles à l'Ukraine. En attendant, tout ça est quand même très inquiétant, puisque on a l'impression quand même d'un engrenage qui risque de nous mener à une déflagration générale. Et de ce point de vue-là, je suis, moi personnellement, je ne vous cache pas mon inquiétude lorsque je vois notamment que le président Zelensky hier a dit que si la Chine donnait des armes à la Russie, ce serait la Troisième Guerre mondiale. On a donc le sentiment que à Kiev, le président Zelensky
Il se délecte à l'avance, il jubile à l'idée d'une déflagration générale, éventuellement débouchant sur une guerre nucléaire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux d'avoir ce personnage à la tête de l'Ukraine.
C'était François Asselineau, homme politique français. Il a commenté à notre micro le discours de Vladimir Poutine devant le Parlement russe. Monsieur Asselineau est notamment revenu sur la suspension de la participation de la Russie au traité New Start annoncé par le président russe. Chers auditeurs, Spoutnik Afrique va maintenant rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite aux commandes d'une nouvelle émission sur les ondes de Maliba FM pour un nouveau numéro de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien!
La Russie va répondre à tous les défis, parce que nous sommes tous un seul pays, un grand peuple uni. Nous sommes sûrs de nous-mêmes, nous sommes sûrs de nos forces, et c'est nous qui avons raison. Merci.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.